Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast divertissant et diversifié. À chaque trois semaines, les geekettes, c'est nous autres, ça. On vous parle d'un produit de la culture populaire, de notre choix, ou des fois, on a des invités aussi, mais on jase aussi de plein d'autres affaires! Ah oui, aujourd'hui, ce soir, en journée ou en matinée, peu importe au moment où est-ce que vous nous écoutez, je suis Fanny Grégoire, votre animatrice pour ce moment-là, et je suis en compagnie de Martine! Allô, Martine!
Hey, salut, Fanny! Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu, c'est excitant!
Oui, ça fait au moins deux épisodes qu'on s'est pas vu. Ça paraît une éternité, selon moi.
Oui, puis pourtant, j'ai joué à plein de jeux vidéo, fait que aujourd'hui, j'ai pas pu me limiter, je vais en parler de deux.
Ouais, hein, j'ai hâte de savoir ça. J'ai aucune idée en passant l'épisode. On s'est pas tant parlé que ça, mais moi et Martine, c'est un peu YOLO aujourd'hui. Donc, j'ai hâte d'entendre ça, Martine. Puis, écoute, aujourd'hui, on n'est pas seulement deux.
Mais non, on est trois.
On est trois. On a un invité avec nous. On a le BDiste Steph Dumais. Bonjour, Steph.
Bonjour.
Allô, alors tu es notre geekette invité. Geekette honoraire, comme nous a dit notre plus récent invité. Avant, on appelait ça des geekettes masculines, mais là, geekette honoraire, c'est plus non-genré, nerd, tout ça.
Parfait.
Donc voilà, c'est plus c'est ça. C'est juste.
Puis, pour les plus grands fans de l'émission, vous aurez peut-être remarqué que c'est sa deuxième présence.
C'est pas la première fois. Puis, mais en fait, c'est la deuxième fois que tu es ici au Geekette, Steph.
Ouais.
Si tu te rappelles-tu du numéro de l'épisode?
Ben oui, tu me l'as dit tantôt.
Je sais.
C'était 30.
Épisode 30, donc ouais. Si vous voulez aller voir comment ça a changé les Geekettes, c'était pas mal différent que dans le temps, dans mon salon, avec un micro-zoom au milieu du salon, avec moi et Geneviève, qui était l'autre co-animatrice à l'époque. J'avais un autre style d'animation, pas mal plus smooth aussi, là, un peu moins d'expérience, disons-le franchement. Ça fait quand même 9 ans là, de tout ça. Mais ça fait plus longtemps que ça qu'on se connaît quand même.
Ben oui, on s'était rencontrés à Exposin.
Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une foire de fanzines ou de... En général, fanzine, il y a de la bande dessinée, il y a toutes sortes d'affaires à Exposin. Il y a des art prints, des dessins imprimés, de l'art imprimé aussi. Là, ça fait plusieurs années que ça existe. Habituellement, ça a lieu dans un sous-sol d'église. T'as-tu été dernièrement ou...
Non, c'est ça. J'ai été absent de quelques Exposin parce que, je sais pas, là, tu sais, les horaires, ça, c'est pas tout le temps parfait.
Ouais, c'est un peu underground aussi. Des fois, ils sortent pas toujours... tu sais, les moments où est-ce qu'il faut que tu peux t'inscrire aussi. Des fois, c'est un peu plus difficile, là.
Bien, ça, j'ai jamais eu de la misère parce que j'étais là depuis assez les débuts. Puis à un moment donné, même à la dernière minute, on m'avait dit « Ah non, mais Steph, c'est correct, là. On te garde une place. »
J'étais bien content. T'es un habitué, là. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est bien, ça.
Je suis en train de perdre ça, là, parce que j'en ai manqué une coupe.
C'est ça. Martine, est-ce que tu sais c'est quoi, Exposin? T'as-tu déjà été?
Bien, je sais que t'en parles souvent, mais
j'en parle souvent que ça.
Ben oui, tout le temps.
Mais non. Tout le temps. À chaque fois, je vois Martine. Hey, c'était-tu Exposin, hein?
Ben non, je suis jamais allée. Mais en fait, je suis pas certaine. Puis là, mon chum va peut-être me reprendre, là, parce qu'un moment donné, il avait fait un genre de fanzine. Puis il était allé à une exposition dans un sous-sol d'église. Puis je me dis, coudon, c'était-tu là?
Ça sonne comme ça.
Ça sonne comme ça, hein? Ouais. C'est-tu proche de la rue Saint-Laurent?
Sûrement. Sur Saint-Dominique. Saint-Dominique, mais finalement... c'est à côté de Saint-Laurent.
Ouais.
C'était comme, il y avait une grosse... Dans le temps, là, c'était à ce coin-là. Là, ça a changé d'endroit. Je ne sais pas si c'est où. En tout cas, je vais inviter Louis Rastelli là, au Geekette, là, pour qu'il vienne vous jaser de ça, parce qu'il y a plusieurs projets. Là.
Fait que finalement, je suis déjà allée.
Ben oui, peut-être, ça se peut.
Puis tu sais, là, c'est pas un art que je connais beaucoup, la BD et tout ça. Puis finalement...
Chacun ses intérêts.
Oui, mais j'ai pas pu me retenir. J'avais acheté plusieurs numéros, finalement.
On aime ça.
J'avais réussi à me laisser tenter par plusieurs trucs.
Ouais, cool. C'est quand même difficile de ne pas acheter quelque chose à Exposin. Bref, sur cette grosse parenthèse d'Exposin-là, on va aller aux nouvelles des geekettes. Alors, qui commence avec les nouvelles des geekettes, Martine?
Ben, écoute, Fanny, t'en as tellement. Est-ce que tu veux que je commence?
Ben, je pourrais commencer. Comme ça, ce serait moins comme toute une batch de nouvelles. Donc, je vais commencer. Mes nouvelles sont très BD là, ce mois-ci. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a Steph avec nous, là, mais ça donne comme ça. Alors, je vais commencer tout d'abord les félicitations au Festival de la BD de Montréal qui sont positionnés sur l'intelligence artificielle. Ou est-ce qu'ils ont vraiment pris une position claire comme quoi que il n'y aura pas... L'art au Festival de BD de Montréal sera seulement créé par des humains et non pas par des machines. Ce qui est quand même très important. Et moi, j'apprécie un festival qui prend position là-dessus. Là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Steph?
Je suis très d'accord. Je m'amuse même à troller les gens des fois sur Internet par rapport à leur AI. Puis, ouais. Quand j'ai vu ça, j'étais 100% d'accord.
Oui, vraiment. Parce que moi, c'est fou. Là. J'ai commencé à remarquer, à voir des choses sur Etsy. Puis tu vois les images, puis tu te dis, parce que Etsy, c'est une boutique en ligne pour les gens qui ne connaissent pas ça, où est-ce que tu achètes souvent des artistes. Mais là, j'ai commencé à voir des choses qui étaient faites, qui ressemblaient à du AI ou de l'intelligence artificielle. Là, j'étais comme, là, je voyais ça, là, puis ça me chicotait parce qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de produits qui vendaient. Puis là, l'auteur disait que c'était du open source. Là, je fais des guillemets radiophoniques ici. Donc, j'étais comme, ouais, c'est une bonne chose qu'on commence à se positionner là-dessus parce que c'est. Il me semble que c'est une autre part de tarte qu'on enlève aux artistes qu'on n'avait comme pas besoin de se faire enlever. En tout cas, ouais, message. Ouais. Ouais, vraiment. Donc, bravo, FBDM. Alors, Martine, tu peux continuer avec ta nouvelle?
Et on s'en va complètement ailleurs. On s'en va dans l'absurde, Fanny.
Ah oui.
Bien sûr, parce qu'on a eu la chance au Geekette de recevoir des billets pour aller à la première médiatique de Jean-Thomas Jobin. Donc, j'y suis allée avec Patreon Guillaume qui m'a accompagnée.
Allô, Patreon Guillaume.
Allô, Patreon Guillaume. Donc, le spectacle s'appelle 10 strict 30 T1. Mais tu sais, Jean-Thomas Jobin, là, donc thé comme la boisson, là, vous comprenez...
C'est un jeu de mots, c'est pas un strict 31, là. C'est vraiment un jeu de mots c'est... avec... Ouais.
Exact. Donc, c'est son 4e show en 20 ans de carrière. Et je vais citer Jean-Thomas, comment il décrit son spectacle, et c'est juste un extrait. « C'est mon absurdité et mon ironie tiendront toujours mon univers. Mais je continue à m'ouvrir davantage sur des trucs réels que j'ai vécu, trucs souvent absurdes en soi. » Et je trouve que ça résume vraiment très bien le spectacle qui est comme découpé en plusieurs morceaux. Puis chaque morceau, c'est en lien avec une anecdote justement sur sa vie ou comme des choses, pas nécessairement qui lui sont arrivées, mais un sujet de la vie courante, si on veut. Mm-hmm. Donc, j'ai bien ri. C'était bien rythmé. C'est une première médiatique, donc quelques petites erreurs dues à la nervosité, mais très bien rattrapées, là, qu'on réussissait à rire aussi de la façon qu'ils se rattrapaient. Puis il y a toujours des billets disponibles au jeanthomasjobin.com si ça vous tente de vous laisser envahir dans cet univers.
C'est... Oui, est-ce que tu es une fan de Jean-Thomas Jobin? Est-ce que tu l'appréciais déjà avant?
J'avais jamais vu aucun de ses spectacles. T'sais, une fois de temps en temps, je le vois dans des shows où je l'écoute à des podcasts, puis je l'aime bien. Mais c'est le premier spectacle que je vois et j'ai bien apprécié.
Bon,
et
bien.
Finalement, Fanny, je t'ai menti. Ça m'amène
hein?
à...
Quoi?
Ben,
quoi?
C'est, pas... c'est que ça m'a fait aussi penser fait que je voulais plugger autre chose par rapport à ça.
Mais tant mieux, tant
c'est
mieux.
Que j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Yé Mad. Et pourquoi est-ce que ça, le lien avec Jean-Thomas, c'est que c'est des dad jokes. Mais c'est vraiment comme l'équivalent de la version québécoise, mais c'est la version australienne. Et la personnalité des participants est tellement attachante. Là. Je suis vraiment tombée en amour avec cette chaîne-là. Puis, mais tu sais, on s'entend, il faut aimer les jeux de mots poche. Là.
OK.
Parce que c'est des dad jokes.
Ouais, là.
Puis
ouais.
Justement, là, ils sont un contre l'autre, puis il ne faut pas qu'ils rient. C'est du gag. Et il y a certains des participants, là, mon Dieu, ils rient de leur propre joke. Là. Mais super attachant, australien. La chaîne YouTube, Yé Mad.
Super. Je vais mettre le lien dans les show notes de l'épisode là, pour être sûr qu'on a bien les titres et tout ça. Ben merci. J'allais m'abonner à ça, Martine. Notre chaîne YouTube à suivre.
Exact.
Nombreuses chaînes.
Nous, on écoute ça le soir en brossant nos dents avant d'aller se coucher. Ah. Là, puis c'est ça. Ça me divertit bien.
Y a-t-il des chaînes YouTube que t'aimes en particulier, Steph, que tu peux nous dire au Geekette?
Oui, que je peux vous dire. J'en ai une qui me passe dans la tête, là, que j'aime bien écouter, qui n'est pas une bonne idée d'écouter avant de se coucher.
Oh.
Parce que tu ne seras pas reposé. C'est un Ukrainien qui s'appelle, sa chaîne s'appelle Mustang Wanted. Il a politisé un peu sa chaîne là, pour des raisons qu'on connaît.
Ouais.
Mais à la base, ce qu'il fait, c'est un genre de, je ne sais pas comment tu appelles ça, là, un explorateur urbain. Qui grimpe à des places qui n'ont pas d'allure puis qui n'ont pas le droit.
Oh!
Mais tu regardes ses vidéos, puis tu viens les mains moites, là, puis C'est stressant.
Mais est-ce qu'il s'attache ou il...
Il s'attache pas.
Oh my God!
Il s'attache pas, puis il est rendu en haut, il se prend après une barre, les pieds dans le vide, puis là, il fait des...
Des chin-ups,
ouais. Puis ah, c'est... Je viens stresser à en parler, là.
Ben, oh my God. Mais je vais inscrire ça, cette chaîne-là.
Ben
tu
oui,
m'enverras lié.
Pour les plus téméraires.
Oui, les plus téméraires qui... Bon, ouais, je serais curieuse. Je suis comme curieuse, mais je sais que je vais regretter. T'as regardé cette chaîne-là, je vais faire « Oh non! »
Mais tu sais qu'il n'est pas tombé quand il a mis ses vidéos.
I know, ouais. Mais ah, oh, ça me fait... L'autre fois, j'ai vu une vidéo d'un gars qui sautait vraiment de loin pour aller finalement tomber dans une rivière, mais il était à un mètre du plancher.
Oh,
c'est comme, ouais. Non, puis il a sauté de genre 30 mètres là, de haut, ça n'a aucun sens. J'étais comme, non. J'en parle, puis j'ai comme chaud.
Fait, ouais. Ouais.
Je vais regarder ça rapidement, puis après, je vais, ah, qu'est-ce correct? Puis j'allais jouer Animal Crossing après, pour me remettre de tout ça. Je vais continuer avec mes nouvelles, vu que j'en ai une petite tralée. Je sais même des nouvelles, d'ailleurs, Steph, tu peux nous en dire là, okay. Aussi.
Si quelque chose
qui te pop, n'hésite ouais. pas à m'interrompre.
Okay.
Donc, on est dans le temps des salons de toutes plein d'affaires. Donc, j'en ai quelques-uns ici. Donc, le fameux Salon du livre de Montréal. Si vous êtes couché en dessous d'une roche, ça se peut que vous n'avez pas entendu parler. C'est du 22 au 26 novembre, Salon du livre de Montréal. C'est une bonne occasion de rencontrer plein d'autrices et d'auteurs du milieu de la BD, du roman. Peu importe, il y a beaucoup de bouts. Il y a même des gens là, qui font des podcasts, là, qui sortent des livres. Donc, peut-être qu'ils vont être... Là, je pense à des gens du True Crime surtout, là. Bon endroit pour aller les voir, faire autographier votre livre et tout. Il y a aussi un festival super intéressant que j'avais déjà été il y a quelques années, le Festival de la BD de Gatineau. À Gatineau, hein? Pas Ottawa. Gatineau. Du 1er au 3 décembre. Super beau petit festival de la bande dessinée pour les gens qui sont dans l'Outaouais, un peu plus loin de notre petit Montréal. Là,
très... J'y serai aussi.
Oui, tu vas y être!
Ouais.
Bon, ben voilà.
Tu as volé ma nouvelle.
Ah oui! Tu vas-tu y être tout le long du festival?
Oui, j'expose, puis je vais faire des dessins live, puis des trucs.
Ah oui, tu dessins en direct, là?
Ouais.
Ah, c'est cool, ça.
Ouais.
Tu fais-tu du genre de art battle aussi?
Je n'ai fait un au FBDM l'été dernier. C'était au printemps, été, printemps.
Oui, je pense que c'est printemps.
Oui, ouais,
printemps.
Oui, c'était drôle.
Ouais.
Mais là, pour les néophytes comme moi, là,
oui.
C'est-tu comme au Comic-Con, puis les gens ils doivent payer en plus pour aller le voir
pas ou tout ça? Non. Ou
non?
C'est-tu même payant, le festival? Ou on...
Non.
Non, c'est gratuit pour le public.
Okay. Excellente question, parce que
ouais.
Tu vois, Salon du livre, c'est payant, il faut que tu aies une passe.
Oui, exact.
Le Gatineau, c'est pas payant. FBDM, ça n'est pas payant.
Fait qu'ils peuvent aller voir les artistes dessiner
ouais.
Gratuitement.
Ouais.
Ah, mais c'est vraiment fantastique.
Oui, oui. Ouais. Tu sais, souvent, il y a plus une vocation culturelle, alors ils reçoivent des subventions par rapport à ça. Là. Ça dépend des organisateurs qui l'organisent, mais non, c'est super le fun. C'est un petit festival, donc tu sais, tu peux être plus proche des auteurs à Gatineau aussi. Là, tu peux passer plus de temps, il y a moins de gens. Il y a vraiment moins de monde qu'à le Salon du livre de Montréal.
Ben, le FBDM,
là,
c'est
ouais, FBDM, ouais, c'est rendu gros là, ouais, quand même. Là.
Parce que
ouais.
C'est en pleine rue, des gens qui n'étaient pas au courant que c'était là, qui passent là, fait que...
Ouais, ouais, tous des beaux festivals. Donc, manquez pas ça. Aussi, là, je me promenais sur les internets, puis là, j'ai vu qu'il y avait une exposition sur Henriette Valium, qui est Henri. Tu le connais-tu un petit peu, Steph?
Oui.
Oui, donc Henriette Valium, qui est un artiste de la scène culturelle underground à Montréal, qui est décédé malheureusement. Ils font une exposition avec plus d'une centaine de ses œuvres qui va avoir lieu à Repentigny, de toutes les places, je ne sais pas
pourquoi. Oui, hein?
Mais je trouve ça intéressant. Je suis comme, ah, cool, il s'en va en région. Région. Gros guillemets, là, ici, la région. Je m'excuse pour les gens de Repentigny. C'est à...
En banlieue, c'est plus adéquat, ouais. Je pense.
Il est juste en banlieue, plus. Donc, il va être en banlieue. Donc, je trouvais ça intéressant. Ça va être... attendez que je vois ma petite note à l'espace culturel de Repentigny du 7 novembre jusqu'au 28 janvier. Donc, le prix d'entrée, un petit prix d'entrée à 6,50 si tu habites Repentigny ou 9,50 si tu es pas à Repentigny. Donc, c'est bien correct. Hein?
Moins cher que le Comic-Con.
Pas mal, oui. Une petite affaire. Donc, c'est qui, en fait, Henriette Valium? J'avais pris une petite note là, pour vous expliquer pour les gens qui ne savent pas c'est qui. Selon la notice, c'est une figure incontournable de l'art underground montréalais. Patrick Henley entre parenthèses, Harriet Valium, qui est comme son nom d'artiste, là, son pseudonyme, a contribué à l'essor de la bande dessinée alternative québécoise au tournant des années 80 et 90. Alors, à travers la peinture, la vidéo d'art et la musique, il aborde avec humour et désinvolture des thèmes lourds de sens tout en posant un regard critique sur la société. Super intéressant. Je vais vous mettre des liens un petit peu vers sa page Wikipédia là, pour que vous renseigniez un petit peu. Et surtout, sur le site de l'exposition. Il y a des très belles photos. Donc, voilà. Puis j'avais une dernière nouvelle.
Ben, vas-y, Fanny, t'es en feu ce soir.
C'est une nouvelle très simple. Là. C'est juste de dire bonjour à notre nouvelle Patreon. Bonjour, Josiane! Merci d'être notre Patreon.
Merci, Josiane!
Merci! Donc, ça termine nos nouvelles. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Monsieur Steph Dumais.
Bonjour encore.
Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer ton entrevue, si ça te convient.
Bien sûr.
Alors, je vais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, c'est sûr, tu as été à notre épisode numéro 30, là, mais au cas où que les gens n'auraient pas écouté cet épisode-là...
Ou ne se rappellent plus.
Ne se rappellent plus, comme moi aussi, je m'en rappelais plus trop. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai parlé avec Steph? Alors, tu es un BDiste depuis à peu près une dizaine d'années et plus, sans doute, là.
Le double.
Le double, une vingtaine d'années.
Ben
bon,
oui.
Tu vois.
T'as surpris tes notes de l'épisode 30, finalement?
Hey, j'ai pas gardé tout ça. Non, absolument, je garde pas vraiment mes notes, là. J'essaie de pas trop garder de stock dans mon ordinateur. Bref, t'es surtout connu sur la scène de la bande dessinée, mais plus horreur slash gore. Là, j'ai pas de terme pour gore. Comment on dirait ça en français, gore?
Ben, d'habitude, on fait juste dire gore.
Gore, hein, ouais. C'est ça. Les gens, si vous avez une traduction francophone pour gore, envoyez-moi là, s'il vous plaît. C'est surtout du côté américain, je crois, anglais,
ouais.
Plus international.
Oui, mes premières collaborations, c'était surtout avec des Américains, puis ça a continué comme ça. Le marché, il est plus là. Puis
ouais.
C'est... Je pense que c'est culturel aussi, là. Ils sont plus sanguinaires.
Ah, il y a beaucoup de films aussi, on peut y revenir. T'es connu pour la série Zombie Commandos from Hell. T'as aussi plusieurs anthologies, dont Rise of the Blood Queen. Il y a aussi j'ai vu Coffee House of Doom aussi,
ouais.
Qui est plus récent, d'après ce que je connaissais là, de ce que tu travailles. Tu es aussi propriétaire d'une maison d'édition, Bloody Gore. Attends, je vais le dire comme il faut. Bloody Gore Comics.
Ouais.
Depuis plusieurs années, ça aussi, là, 10
ben
ans,
oui,
de ce que j'ai vu.
Je fête les 10 ans, oui.
C'est ça, félicitations!
Merci.
Puis, ben c'est ça, écoute, on a aussi parlé de Slaughtered Kingdom plus récemment au Geekette.
Oui.
On a fait une petite publicité dans les nouvelles. Donc, les gens, ça vous dit quelque chose, ben voilà. Puis, il y avait Chantal, les Geekettes, qui avait parlé de l'album de BD Metal aussi, là, sur lequel tu avais travaillé.
Oui, les 5 grands groupes Metal du Québec.
Exactement. C'est-tu Sawin, édition Sawin? Ben, je ne suis pas piège.
Ouais, c'est bon.
Je ne fais pas ce show-là pour rien. Donc, ben voilà, bienvenue parmi les geekettes, de retour, en fait. Puis écoute, je voulais parler, faire un petit peu une mise à jour de tes projets. Écoute, je me disais, c'est comme l'automne, novembre, le mois des morts, ou comme à la Toussaint, c'est ça qu'ils disent. Mais je me disais, ah, ça me semble, ça fit très bien quand même. Puis là, je me demandais, là, parce que je ne suis pas sûre de t'avoir déjà posé la question, mais... Pourquoi tu as choisi l'horreur? D'où ça vient tout ça? T'sais, c'est quand même un niche particulière. Qu'est-ce qui t'a mené à faire de la bande dessinée d'horreur?
Ben, je pense que quand j'étais petit gars, j'aimais ça dessiner des monstres. Ça serait une réponse. ça a resté. Je me souviens de mon prof d'art plastique au secondaire qui me disait « En tout cas, j'espère juste que tu feras pas ça toute ta vie. »
Ah ouais!
Je suis comme... Mais sinon, je pense que je remonte ça à mon adolescence. Dans le temps, je lisais des comics de super-héros comme ben du monde. Puis j'étais allé dans un comic shop à Ottawa pour la première fois. Puis je savais pas qu'il y avait des magasins juste de BD. Puis j'ai vu qu'il y avait autre chose que des super-héros. Mais c'est pas les trucs tranches de vie qui ont tiré mon œil.
Ouais, ouais, c'était comme on voit plus récemment au Québec, là, beaucoup.
C'est
là.
Ça, c'était, ouais, c'était plus, je me souviens de Faust, puis de Crow, puis des trucs plus, c'était plus violent. C'était, pour mon petit moi de 14 ans, c'était vraiment impressionnant.
Mm-hmm.
Ça a collé.
Ouais, ouais. Puis c'est drôle parce que moi, ce qui me marque beaucoup des gens qui aiment l'horreur ou le gore, je pensais à ça tantôt, je me disais, même les gens qui aiment le métal, on dirait que c'est tout un monde un peu relié, qu'il y a des fils qui s'interconnectent. Ouais, ouais. Mais souvent, ces genres de personnes-là sont super gentilles. C'est pas comme des personnes bizarres ou. Tu sais, moi, absolument, c'est des. C'est, fait, moi,
c'est ça thérapeutique. Me
fascine. Oui, ben je sais pas. Il y a comme quelque chose d'intéressant là-dedans, je trouve. Souvent, c'est des. Je me rappelle, j'avais un ami maquilleur qui est spécialiste en effets spéciaux d'horreur, justement. C'est sincèrement une des personnes la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Allô, Patrick. puis c'est juste quelque chose que je suis comme... Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça doit être thérapeutique, comme tu dis. Tu sors peut-être, le méchant.
Je sais pas. Ouais.
Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça plus souvent aussi. Toi, Martine, est-ce que tu consommes un petit peu de l'horreur, du gore?
Ben moi, tu sais, c'est le true crime. Mais de l'horreur ado, oui. Mais tu vois, j'ai comme laissé tomber avec le temps. Là. C'était plus en cinéma, puis on dirait que j'ai décroché un peu.
Mm-hmm. Tu vois, par exemple, moi, de mon côté, l'horreur, c'est plus... J'aime quand c'est rigolo, tu sais. J'aime quand c'est drôle. Faut que tu m'attrapes parce que ça soit drôle. Le gore me dérange pas. Je trouve ça...
Non, moi aussi, le gore me dérange pas.
Ben, ça va ensemble, je trouve, parce que l'horreur que j'aime, moi, c'est ça, c'est justement... Les trucs de psychopathe ou de torture, comme, tu sais,
des cadences, tout ça, là, ouais, c'est
ça m'attire pas. Mais des affaires exagérées, comme les vieux films de Peter Jackson, où il y a tellement de sang que tout le monde glisse dedans. C'est très gore, mais c'est très drôle.
C'est drôle.
C'est vraiment ça qui vient me chercher.
Comment s'appelle son film, son vieux film à Peter Jackson? C'est-tu Dead quelque chose?
Non, on en parle, puis j'ai un
Moi aussi, ça va revenir. Brain Dead, je pense que c'est ça.
Non, pourquoi je me souviens pas? Ben non.
Il y a des gens à la maison qui sont comme « C'est ça, c'est tout à fait là. » Mais ouais, moi c'est drôle parce que je suis une grande fan de Lord of the Rings. Fait que, tu sais, j'entendais tout le temps parler de ce film-là ou de Frighteners, mais c'est pas de l'horreur, c'est plus comme...
Ouais,
c'est autre chose. Ouais. Mais bref, ouais, non, c'est ça, c'est ça. Le côté humoristique, moi je trouve ça drôle. J'ai déjà fait du maquillage, fait qu'on dirait que ça me touche aussi. Il y a comme quelque chose qui vient me chercher, là. C'est comme, c'est pas vrai, tu sais, c'est juste niaiseux. En tout cas, bref, sur ça, on va revenir à toi. Écoute, je sais que tu as une maison d'édition, tu as des Gore Comics. J'ai vu que tu faisais beaucoup de sociofinancement. Puis je sais que parmi nos auditeurs, il y a des gens qui peut-être voudraient se lancer un projet de sociofinancement. Parmi nos auditeurs, il y a des gens qui s'intéressent à la BD, il y en a qui s'intéressent à des projets culturels autres, là. Donc, je me suis dit, il semble que Steph, il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Puis je me demandais si tu avais peut-être un petit conseil pour ces gens-là, qui veulent se partir un sociofinancement.
Ben, des conseils de la préparation, c'est bien, parce que les premières campagnes que je faisais juste go, y aller, je me pitchais dedans, puis je réalisais mes erreurs après. Fait qu'il y a beaucoup de préparation, là. Je ne sais pas en détail, là. Si je pense à de quoi, je vais le dire, mais observer beaucoup les autres campagnes aussi, ça aide.
Ouais.
Prendre des notes là, sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Puis maintenant, il y a beaucoup de ressources. Il y a même des chaînes YouTube là, qui conseillent les gens. Ouais, ouais, il y a beaucoup de ressources pour aider les gens. Faut que tu sois prêt à investir bien du temps. Parce que le très bon côté, c'est que ça marche, ça fonctionne, puis c'est le fun, puis ça... Ça permet, c'est comme des précommandes, c'est de la pub en même temps, tu sais, c'est parfait. Mais faut s'investir.
C'est un outil marketing aussi, là, tu sais.
Mais as-tu toujours juste utilisé Kickstarter ou t'en as utilisé d'autres plateformes de sociofinancement?
Ben, je l'utilise en combinaison avec BackerKit,
okay.
qui est comme un autre service qui a plus d'options pour, après ça, s'occuper du shipping. J'ai séparé le shipping de Kickstarter. Puis, en tout cas, c'était plus facile à gérer comme ça.
Oui, la gestion de l'envoi, c'est quelque chose. Ouais. Moi, je me souviens d'une amie qui, justement, elle faisait sa campagne de sociofinancement, puis je l'ai vue dans une chambre d'hôtel en train de signer ses copies de livres, là, un après l'autre. Ouais. Là, j'étais comme, oh mon Dieu! C'est le genre de choses que tu dis, hey, ça va être facile, mais quand t'en as 100 à envoyer puis à choper, c'est un petit peu plus long, tu sais.
Puis j'ai fini par m'équiper au long des années, là, chez nous, dans mon petit studio. J'ai l'imprimante à étiquette, le thermal, la balance. J'ai maintenant une armoire de tous les types d'enveloppes et de boîtes. C'est comme un petit bureau de poste, ouais.
Martine, tu connais ça, toi, ça?
Ben oui, chez Retro Montréal, le shipping, c'est notre quotidien. Hein, puis effectivement, puis tu sais, c'est pas des imprimantes thermales, puis des balances, il y en a vraiment très abordables pour des gens qui
pas
se partent.
Là.
Oh, oui, oui. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur.
Puis Puis pour le shipping, il y a des services pour faire du bulk, là.
Ah oui, c'est vrai. Il y a comme des sous-traitants, dans le fond.
C'est
là.
Ça. Fait que ça aide beaucoup aussi.
Super intéressant. Écoute, là, c'est une grosse colle que j'ai. Puis j'aurais peut-être dû te demander. J'aurais peut-être dû te poser la question avant. Donc,
bon. Si des cas, on coupe au montage.
Ouais, c'est ça.
On va couper. Tu sais, on parle au Geekette, on parle de culture populaire. Puis là, je me suis dit, Steph, ça doit être un gros consommateur de produits de culture populaire. Et, tu sais,
quand même.
Trois petits points, là, ça peut être plusieurs autres choses. Puis là, je me demandais si tu avais peut-être une suggestion de quelque chose que tu as découvert dernièrement. Ça peut être un livre. Je sais, c'est comme la question.
Un livre, un jeu, un film.
Ouais, ouais. Ça peut être. Tu sais, nous autres, on parle de séries télé, on parle de toutes sortes de choses, là, ici. Là.
De jeux de société.
De jeux vidéo, hein, Martine?
Bien sûr.
Ben, je peux parler d'un jeu vidéo que je joue ces temps-ci.
J'espère que ça va pas buster ma chronique.
peut-être pas. Parce que, ben, ma parenthèse, ça va être que je voulais jouer à Starfield, mais je suis pas prêt à upgrader mon ordi encore. c'est quand même un investissement. Parce que je suis strictement PC, là, je joue pas console. À cause de mes pouces. Mais en tout cas, c'est une autre histoire.
Ah, comment? Non, mais qu'est-ce que...
Oui, c'est ça, qu'est-ce que tu passes?
J'ai pas de flexibilité dans mes pouces. Ma blonde, elle aime rire de moi pour ça.
Ah oui?
Oui, il se rampe, il ferme pas.
Ah! Mais oui, ça arrête. Oui, je comprends. Nous, ça se rend loin, mais pas toi.
Ouais, comme nous, on peut toucher la paume de notre main.
Mais pas capable. Mais non, ça s'arrête là.
Mais le reste, ça te nuit pas au dessin?
Pas au dessin, non.
Ah, t'as pas besoin de flexer ton pouce
pas tant que ça. Non.
Ouais, c'est
non.
Une chance, hein?
Fait que bon, finalement, PC, t'as découvert quel jeu.
Puis après, je me suis rabattu sur l'update de Cyberpunk, qui est quand même fun. Mais Cyberpunk, il m'a déçu parce que c'était pas un vrai RPG. D'après moi, c'est pas un vrai RPG. Fait que je me suis rabattu sur quelque chose qui est même pas un RPG. Crossout.
Ben, j'ai aucune idée, c'est quoi?
Je sais pas, c'est quoi?
C'est un jeu des chars post-apocalyptiques. Puis tu construis ton bolide. Tu mets de l'armure, des fusils. Puis tout. C'est super détaillé. Il y a plein de combinaisons. Il y a du monde qui chiale parce que c'est un pay to win. Tu peux mettre de l'argent pour avoir des affaires cool, mais. En bout de ligne, le jeu il est balancé parce que quand tu construis tes trucs, c'est avec des points. Fait que ton char, c'est qui vaut tel nombre de points contre tel nombre de points, peu importe ce que tu as mis.
Mais après, il y a des courses sur piste avec le véhicule
c'est
comme un tower defense.
Construire ton char?
Non.
Okay. Moi, je suis comme...
Mais il y a une partie de ça parce qu'il y a comme une section expo. Mais, non, c'est plein de missions. C'est genre... le drapeau, là, tu vas sur le territoire de l'autre, le premier qui capture le territoire. La plupart du temps, c'est juste quelle équipe a anéanti l'autre. La plupart du temps, c'est ça. Des fois, tu as des trucs, faut t'escorte telle personne jusque-là. Puis, en tout cas, moi, j'ai bien aimé ce jeu-là. Je joue régulièrement. Puis ce que j'aime, c'est que, contrairement à RPG, ça fait pas que je m'investis trop et que je dessine plus.
Les parties sont courtes, sûrement?
Oui, c'est ça, c'est des petits matchs.
Ouais, c'est ça, c'est parfait.
Oui, c'est ça, j'apprécie ça. C'était pas comme ça. Fait que, il y avait aussi une émission que j'aime bien, que j'écoute en ce moment, parce que les épisodes sortent aux semaines. C'est Gen V.
Ah oui, j'ai comme... spin-off de The Boys.
Ah, c'est fou.
Ah,
j'aime tellement ça.
Moi, j'ai tout adoré The Boys, puis je suis même pas au courant de ça.
Ah, ben c'est vraiment une continuation. C'est une école, en fait. Puis c'est aussi tordu que dans la série principale parce que c'est pas dans l'intérêt des jeunes du tout. Là.
Mais l'ont-tu fait en BD aussi avant?
Je pense pas.
C'est
vraiment un spin-off
de la série télé. Ouais.
C'est ça, il y a tout le gore qu'il y a dans The Boys est là aussi.
Ouais, tu vois, j'avais fait la chronique, tu te rappelles, la première saison, parce que je faisais la comparaison avec la BD. Fait que finalement, peut-être j'aime un peu le gore si j'avais lu toute cette BD-là.
Ben oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gore dans The Boys.
Ouais, mais c'est très humoristique.
Oui, c'est ça.
Ouais. C'est un peu plus dramatique, je trouvais, par contre, dans Gen V. Il y a des bouts un petit peu...
Ouais, peut-être.
Ça, c'est un petit peu...
Plus au début.
Ouais, au début, ouais, moins à la fin. C'est
vrai, à la fin, c'est n'importe quoi, c'est drôle.
Mais oui, c'est disponible déjà, Gen
V? C'est sur Prime.
Prime, oui. Ouais. Ben, parfait. Ben, écoute, écoutez les gens, si vous avez écouté The Boys, allez voir ça. Mais je pourrais en reparler de cette série-là prochainement, là, au Geekette, là, peut-être. Là, écoute, j'ai des petites réticences. En tout cas, j'en reparlerai dans une chronique, là, éventuellement.
Okay.
Mais c'est une bonne suggestion. J'approuve parce que j'ai écouté jusqu'au bout.
Okay.
Donc, ça en dit long sur... c'est pas mauvais, là. Allez écouter ça. Hey, je continue la petite entrevue, Steph. Écoute, j'ai une question de Patreon François.
C'est-à-dire mon mari.
Oui. AKA, also known as... en passant, j'ai découvert récemment que AKA, ça voulait dire also known as. Ouais, j'apprends encore des choses à mon âge. C'est merveilleux. Alors, sa question, c'est... Écoute, c'était comment de travailler avec sur les Ninja Turtles? Pas avec les Ninja Turtles, parce que ça change beaucoup. Parce que tu as déjà travaillé sur une bande dessinée des Ninja Turtles, des Tortues Ninja, des Teenage Mutant Ninja Turtles, TMNT, tout ça.
Ben, c'était très excitant. Moi, je pensais que ça allait lancer ma carrière professionnelle de BDS aux États-Unis, riche pis tout.
Mais, ouais.
mais c'est, ce qui est arrivé, c'est que... Peter Laird, le co-créateur, a vendu les droits à Nicolas Déon, puis ça a comme tout est tombé à l'eau un peu.
Ah! Oh, OK,
puis c'est puis d'autres créateurs qui travaillaient pour lui aussi, qui sont... En tout cas, ils l'ont pas dit officiellement, là, mais je sentais un peu de grogne pour ça. Mm. Mais,
ça n'a pas de lien avec The Rowan, ou tu sais, comme la nouvelle série qui est sortie?
Non.
C'est ça, parce qu'il y a Peter Laird, puis il y a Kevin Eastman.
Oui, ben, je veux dire... Ils ont vendu les droits, mais dans leur contrat, ils ont conservé le droit que si eux, personnellement, veulent en faire, ils peuvent continuer.
OK, je comprends. Donc,
en tout cas, à moins que je me trompe, me semble que c'était ça. Ouais.
Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, si quelqu'un d'autre, tu sais, comme vous êtes engagé pour travailler sur cette série-là, ce n'est plus possible parce que c'est Nickelodeon qui a les droits. Là.
Exact.
Ouais, de produits dérivés, licences, etc. Là.
Puis dans le temps, ben, c'est ça, j'étais rentré en contact avec un des writers, Steve Murphy. Puis je dis, hey, je peux-tu faire l'entête du courrier des lecteurs? Ça a commencé vraiment petit à petit. J'ai fait un dessin pour l'entête. Après, j'ai fait un pin-up à la fin. D'un autre numéro, j'ai fait
un pin-up? Comme une tortue sexy?
Non, les pin-ups d'un comic, c'est genre la galerie d'images random à la fin.
Oui, je comprends.
Puis c'est vrai, des fois, je dis ça, puis le monde soit comme...
Ben, moi aussi, je pensais que tu avais fait des tortues sexy. Merci de préciser.
Ben, non. Moi, je suis là pour poser des questions. Là.
Si on me paye, je vais le faire, mais bon.
Écoute, il y a sûrement du monde qui serait prêt à payer cher pour ça.
Ah, il y a toute une culture de soins. Mais,
c'est une autre parenthèse, ça.
Mais c'est ça, puis ça a éventuellement mené à comme un backstory. Puis à la fin de la ligne, ça a fait un numéro complet avec la couverture puis tout.
C'est quand même cool, c'est quand même comme un genre de rêve de jeunesse un peu.
Ah, vraiment, c'était vraiment le fun, puis ça a fait jaser, puis c'était payant aussi.
Oh, c'est le fun, ça, c'est le fun. Est-ce que tu as rencontré les créateurs originaux?
J'ai rencontré Peter Laird. J'ai pas rencontré Eastman, mais j'ai rencontré Laird, j'ai rencontré Jim Lawson, qui venait souvent au Comic-Con à Montréal.
Tu peux-tu me rappeler, c'est qui Jim Lawson?
Il a fait beaucoup... c'était l'artiste principal, en fait.
OK.
C'était plus que Peter Laird, puis l'autre...
Kevin Eastman?
Ouais, mais lui, il était plus impliqué, il avait vendu à Laird dans ce temps-là. Puis il y avait, Éric Talbot. Talbot. En tout cas, les gens qui connaissent les tortues, ils savent c'est qui.
C'est quelqu'un d'autre.
Éric. Ouais, c'est ça, c'est Éric Talbot. Mm-hmm. Puis super sympathique. Fait que j'ai rencontré toute cette gang-là. Puis c'est une belle expérience.
Mais c'est-tu comme plus stressant comme contrat? Les exigences sont-tu plus élevées? Ou...
Je pense que j'ai été chanceux parce que le scénariste m'a demandé comment je voulais travailler.
OK.
Carrément. Puis ça m'a pris par surprise. J'ai lancé ça. Ah, moi, j'aime ça le Marvel Way. Puis.
Quand même.
À lancer ça.
Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le Marvel Way pour les gens qui ne savent pas c'est quoi?
C'est vraiment collaboratif. Fait que tu as un scénario. Après ça, tu dessines à partir du scénario, puis le scénariste adapte le dialogue par rapport à ce que tu as dessiné. Fait que c'est du va-et-vient, fait que c'est plus organé.
Puis à ce moment-là, on envoie, je sais pas, deux pages de la shot?
Ben, c'est par page, là, je dirais. Okay. Puis c'est ça, c'est, tu sais, il y a à différents niveaux, mais moi, comment que ça s'est passé, c'était, il me laissait faire pas mal ce que je voulais. Des fois, ah non, ça, c'est vraiment pas ce que j'avais en tête, ça, redessine-le de telle façon, je te donne un exemple, mais en gros, je faisais ce que je voulais, fait que c'était très le fun.
Ouais, c'est intéressant, j'aurais pensé que c'était le genre de contrat qui était tellement restrictif, tu sais.
J'en ai eu des comme ça, puis c'est... Non seulement c'est stressant, mais c'est, on dirait que c'est moins motivant, c'est comme dur, ça flotte pas, tu sais.
Mm-hmm. Surtout que c'est tellement long de faire de la bande dessinée. On le mentionne pas souvent, là, mais c'est long de faire de la bande dessinée. Là. Si long. Tu choisis un projet, là, t'es mieux d'aimer ça, là, parce que sinon, là, ça peut être... c'est long, là. Surtout, en plus, t'es comme toi, t'es scénariste aussi dans tes projets. Souvent, même très souvent. C'est... Donc, il faut que tu scénarises, il faut que tu fasses ta BD, il faut que, peut-être que tu as de la couleur, peut-être que
tu
n'en as pas.
Ah, mais tu vois, la couleur, c'est... ça, c'est...
Ah, ouais.
Ça, c'est une autre chose, là. C'est la partie la plus longue de toutes pour moi, là. Fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup de BD en noir et blanc, où je fais des collaborations.
Ouais.
Où je fais, comme dans une de mes séries, Renegade d'Excel 900, je travaille en duotone, fait que ça, c'est...
Ah, ouais,
c'est
ça sauve autre... du temps aussi, là.
Ça sauve du temps, puis ça donne un autre look.
Ben oui, puis c'est ça, mais c'est souvent, c'est souvent pour ça aussi que du côté américain, ils vont engager quelqu'un qui fait le scénario, le dessin, qui va même faire l'ancrage, qui va faire ta couleur. Tu sais, au Québec, je vois aussi des gens qui vont engager des gens pour faire la coloration. Je pense qu'il y a Caroline Brault qui en fait Cab, qui fait de la coloration sur d'autres BD. Donc, tu sais, ça sauve du temps au final pour une personne. Ben oui. À place de mettre 4 ans, tu vas peut-être mettre 2 ans de ta bande dessinée, là. Donc, Donc, moi, j'apprécie ça, tout ce travail-là que tu mets dans tes projets. Merci. C'est super.
Mais je travaille beaucoup avec des scénaristes aussi, de plus en plus, là, comme ça. On a parlé de Slaughtered Kingdom, puis Renegade, Excel 900, c'est, je travaille avec des scénaristes. C'est, des fois, c'est une idée de base qui est à moi, puis je laisse se lâcher l'os avec.
Ah ouais, puis, c'est cool ça quand même, comme collaboration.
Ouais.
Puis Slaughtered Kingdom, j'avais lu un extrait, puis je trouvais que ça a très bien écrit aussi. J'étais comme, ça a fait très roman, presque, là. Donc, j'avais beaucoup apprécié. Ça donne un ton différent à la BD aussi.
Bien, il y a beaucoup d'expérience, là. Mike Wazian, il est publié déjà là, depuis plusieurs années. Puis c'était comme un projet que ça fait longtemps qu'il voulait faire, mais ça fitait nulle part. Puis moi, j'étais content de le faire.
Mm-hmm. Écoute, Steph... Ça termine ton entrevue. Est-ce que tu aurais... Martine, as-tu des questions avant que je termine ça?
Ben oui, j'ai une question. Vas-y fort! Parce que tu mentionnais tout à l'heure que tu avais ta propre maison d'édition.
Oui.
Comment tu choisis les projets que tu veux éditer?
C'est une bonne question, ça. C'est surtout... Mon premier critère, c'est surtout le graphisme. C'est surtout le style visuel. C'est sûr qu'il y a les critères. C'est une maison d'édition d'horreur, surtout. Des fois, je vais aux limites, là. Ouais. C'est quand même large, mais j'essaie de rester quand même un peu dans cette esthétique-là. Tu sais, j'aime ça quand c'est trash un peu, que ça vient te chercher visuellement. Tu sais, je veux pas des trucs... je veux pas des trucs qui ont l'air tranquilles.
Puis que ce soit français ou anglais, ou...
Ben, c'est tout en anglais en ce moment. Okay. J'ai une de mes BD que j'ai publiée en français. Je suis pas fermé à l'idée, c'est beaucoup de travail aussi.
Mais c'est sûr que le marché est plus anglophone, là, parce que c'est assez niche. Là. Moi, souvent, les gens qui font de la BD, comme il y en a plusieurs qui font en anglais parce que justement, ton marché est plus grand. Le marché au Québec ou francophone, en Europe, c'est plus difficile.
Il y en a en Europe, ça. On m'en parle souvent, puis j'ai commencé à collaborer avec des gens qui font un peu comme moi en France. Ça fait deux fanzines, deux anthologies françaises d'horreur que j'ai participé. Puis ça me fait découvrir qu'il y a un marché pour ça là-bas.
Ah, intéressant.
Fait que je m'ouvre vraiment.
Ouais. Donc, s'il y a des gens, des Français qui nous écoutent en ce moment, là, qui veulent se procurer tes projets, là, ils peuvent aller voir sur ton site web ou aussi ils peuvent peut-être te voir en quelque part en France un jour. Là.
Oui, j'aimerais ça, c'est sûr.
Une convention, il y en a sûrement, des conventions de gore en France ou d'horreur?
Ben oui, il y a des conventions d'horreur. J'ai découvert ça récemment. Ouais.
Oh, OK, bon, avis aux gens qui veulent comme donner une plug à Steph ici. Écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver sur... c'est quoi tes prochains... As-tu des conventions qui s'en viennent? On a parlé du Festival de la BD de Gatineau, entre autres.
Sinon, je suis au FBDM aussi, mais ça, c'est loin. Là,
c'est au printemps prochain, ouais. En 2024.
Le gros des événements, ils viennent de passer. L'été puis l'automne, c'est chargé. Là.
Bon, avec l'Halloween, ça doit être quand même un moment assez important pour toi aussi.
Oui, juste avant, là, c'est en septembre, c'est Requiem, le plus gros festival d'horreur du Québec.
Mais ça, j'en entends... Ça fait plusieurs fois que j'en entends parler de ce festival. C'est où exactement ce festival-là?
Il change de place des fois. Là, c'était au Ruby Foos sur Descaries.
OK.
Ouais.
Comme un genre d'hôtel?
C'est un hôtel, oui.
C'est ça, souvent, c'est dans des endroits comme ça qu'ils vont.
Il faut qu'on y aille en tant que geekette.
Certainement. Découvrir faire ça. Un média sur place, là, ça serait super intéressant.
C'est le fun. C'est toute une autre ambiance. Là.
J'avais vu à Fan Expo à Toronto, il y avait une section complètement à l'horreur.
Ben j'y ai participé.
C'est ça? Ah, super!
Ouais. Ça, c'était gros. Puis j'avais fait un panel, puis toute la kit. C'était le fun.
Ouais, c'est immense. Fan Expo à Toronto, c'est 4 fois le Comic-Con à Montréal, je pense.
Ben, j'avais même pas fait le tour moi-même.
C'est fou, là.
Ouais. Mm-hmm. Mais tu sais, puis sinon, sur Kickstarter, les réseaux sociaux, comment on te trouve, là, si on veut suivre tes projets? Là?
Ben, c'est souvent que le mot-clé Bloody Gore Comics, Comics avec un X. Fait que Instagram / Bodygore Comics, Facebook, Kickstarter, fait que c'est souvent ce mot-là qui est pour me retrouver sur les différents réseaux.
Puis en ce moment, sur Kickstarter, t'as-tu des projets? Hein?
Je viens juste de terminer un projet.
Oh, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Ton nouveau. Parlons-en.
C'est mon premier Kickstarter.
Pour que les gens qui n'aient pas contribué le regrettent, là. Fait que parlons-en.
Mais on peut.
Ah, mais il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard, tout le monde.
Mais non, parce que. Après mes Kickstarter, j'ouvre une page de précommande. Puis une fois que le livre est imprimé, bien, il devient disponible sur ma boutique en ligne. Puis là, récemment, c'est le premier Kickstarter que je fais qui est pour une BD que je n'ai pas illustrée, mais vraiment quelqu'un que je publie. Puis c'est un gros nom, Raulo Sacerres, qui est connu chez Avatar. Il faisait la BD Crossed. Il a fait, en tout cas, il fait plein d'affaires hyper détaillées. Très violent et très porno.
C'est une BD érotique, d'après ce que j'ai compris. Attends, c'est Elizabeth Bathory, c'est ça? C'est comme une histoire fiction sur Elizabeth Bathory qui est une vampire et c'est hyper érotique. C'est ce que j'ai compris.
Oui, c'est très, mais pas érotique sensuel. Là. C'est des vampires, fait que c'est sanglant. Puis C'est très hardcore. Je n'irai pas en détail, mais si vous allez sur Kickstarter, Elizabeth Bathory, Bloody Gore Comics, ou sur ma page, j'ai des liens aussi là, sur bloodygorecomics.com. Puis cette BD-là, ce qui est spécial aussi, c'est que c'est un gros livre de 192 pages, couverture rigide.
Oh wow!
J'ai mis la totale là-dessus. Puis,
j'ai vu une partie uncut. Donc, c'est comme...
Uncut, Uncut, c'est parce que c'était initialement publié chez Eros, chez Fantagraphics.
Mm-hmm.
Puis, Raulo n'était pas satisfait de la traduction qu'il avait fait. Il avait coupé beaucoup dans les trucs. Fait que moi, j'ai restauré la traduction. J'ai travaillé avec une amie mexicaine qui m'a aidé à traduire.
Ah ouais?
Puis, ça, c'était le gros de la job.
Ah,
tout
vraiment?
Traduire, puis tous les textes, les remettre dans les bulles.
Ah oui,
c'était très long. C'était très, très, très long. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues quand même.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, les bulles sont pas tout le temps dans la bonne grandeur.
Oui, exact. C'est ce que j'allais dire.
Fait qu'il fallait que je truque les affaires.
Ou trouver un autre un synonyme.
Ben, il y avait beaucoup de ça à faire. Fait que c'était une grosse job. Puis, il y a aussi, Raulo, il a updaté certaines pages. Fait qu'il y a des illustrations qui sont nouvelles aussi.
Ah, c'est cool ça.
Ouais.
Est-ce qu'il avait publié ça il y a plusieurs années, je crois?
Oui, ça, c'est ça, hein? Ça date de. Presque 20 ans, je pense.
C'est ça. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est super beau encore. Là. C'est vraiment en m'informant que j'ai fait « Ah, oh, OK, ça avait été publié là, un certain temps, mais là, c'est réédité, tout ça. C'est vraiment un beau livre. » Donc, ouais, non, ça a l'air super intéressant. Moi, je le connaissais pas tant. J'ai vu ses dessins, j'ai fait « Ah, oh, c'est vraiment beau,
c'est
ça. »
Vraiment, vraiment. C'est dans dans mes tops. Là. Il est incroyable. Puis, en partie de la campagne, c'était des dessins originaux de lui. Fait qu'il m'a fait quelques illustrations qu'il m'a postées. Fait que les chanceux qui ont contribué à certains niveaux...
Ils vont avoir des originaux.
Ouais.
Oh wow, ça c'est cool ça.
Ouais.
Oh wow, c'est des super beaux projets. Ben merci Steph pour tout ça. On peut te suivre bloodygorecomics.com?
Oui, exact.
Raisinlove.com?
Oui, raisinlove.com, c'est comme mon... mon portfolio, une galerie de mes illustrations.
Oui, donc tu vas, puis prochainement, Festival de la BD de Gatineau.
Oui, puis quelque chose d'autre que je ne peux pas mentionner, c'est une surprise.
Oh, t'es sûr? Tu pourrais nous dire ça,
Biquette, là. Je veux juste faire un tease.
Stay tuned.
Il va y avoir quelque chose de spécial au printemps.
OK, tu nous laisseras savoir, puis on va repartager ça.
C'est bon. Ben oui, je t'en reparlerai.
Ben oui, on en parlera en nouvelles.
Ben oui.
Ah, certainement. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site web? Deux décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez lenumérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804. Martine, tu es de retour, comme à ton habitude, avec une chronique de jeux vidéo.
Ben oui, hey, je savais pas trop de quoi parler parce que, bon, ces temps-ci, j'ai joué à plein d'affaires. Puis on le sait, au Geekette, on aime ça parler à des jeux qu'on a vraiment... Ben, des jeux, peu importe, un produit qu'on a vraiment beaucoup aimé. Puis il y a plein de choses que j'ai fait, puis j'étais comme, ah, c'était bon, mais pas avec mon enthousiasme habituel, tu sais.
Ouais.
Mais j'ai fait plein de choses, des petits jeux indie, j'ai joué beaucoup sur ma Game Boy, beaucoup de rétro. Hey, j'ai même ressorti ma Nintendo 64 pour faire... Tigrou et Yoshi's Story. Fait que j'ai vraiment touché à plein de choses, mais finalement, je m'en vais très, très, très grand public ce soir. Parce que...
J'ai une petite idée, mais vas-y, peut-être que je me trompe. Vas-y.
Ben, il y a eu la première neige. Hein?
Ah oui, là, c'est vrai. C'est le... Avant l'Halloween.
Exact. Quand on rentre là, dans les moments cosy, famille, chaleureux, tu sais, c'est ça, le week-end tranquille. Le temps des fêtes s'en vient aussi, puis je sais qu'il y en a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent, qui jouent pas aux jeux vidéo, mais qui cherchent des suggestions pour jouer avec leurs enfants. Mm-hmm. Fait que je vais être très, très familiale avec un petit duo aujourd'hui. Donc, le premier jeu que je vous parle, c'est Disney Illusion Island.
Oh.
C'est sorti sur Switch le 28 juillet 2023 et c'est développé par Dilala Studio. Bon, qu'est-ce qui va venir vous chercher, Steph et toi, dans ce jeu? Mm-hmm. C'est le graphisme. C'est... Avez-vous vu le visuel de ce jeu-là?
Pas du tout.
C'est vraiment le... C'est un jeu de Mickey Mouse, mais comme ils sont dessinés comme les tout premiers Mickey, en couleur. C'est vraiment c'est cool. Incroyable. C'est ce qui est le fun de ce jeu-là le plus. C'est que comme tu avances dans l'aventure, il y a beaucoup de segments... visuel, puis t'as vraiment l'impression d'écouter les comics du samedi puis du dimanche matin. Là. Fait que c'était le bout qu'on appréciait le plus, puis il y a comme vraiment beaucoup d'humour là-dedans. Ça joue de 1 à 4 joueurs en même temps, c'est un jeu co-op. Donc, il y a Mickey, Minnie, Donald et Goofy.
Et, les classiques.
Exact, les classiques. C'est un jeu de plateforme très traditionnel avec une toute petite touche de Metroidvania qui fait que tu peux pas aller dans tous les endroits dès le début du jeu.
Donc, c'est facile. Il c'est faut pas habitué d'avoir plein de boutons puis tout.
Là. Exact. Okay. Et encore une fois, très humoristique. T'sais, Goofy, toutes ses habiletés, c'est en lien avec la bouffe. Donc, pour se suspendre, ça va être des chaînes de saucisses.
Ah, c'est drôle.
Puis, tu sais, Donald, il est full grécheux. Il se ramasse toujours avec comme, des affaires tellement inutiles pour réussir avec ses habiletés. Tu peux te donner des câlins pour te redonner de la vie. Hein? Fait que, je vous dis, c'est vraiment un jeu très, très, très familial. Facile, facile, facile.
C'est pour moi.
Exact. Tu choisis ton niveau de difficulté. Et il y a même un niveau de difficulté, Fanny, que c'est « tu ne peux jamais mourir hein? ». C'est-tu pas fantastique, ça?
Il n'y a pas de stress. J'adore ça.
Il y a zéro stress.
Fred, cadeau de Noël. Merci.
Il y a énormément de points de sauvegarde également. Donc, si, comme nous, on a joué à deux avec François... François était capable, ça vous donne une idée. Là, on a fait le tour avec François.
François est capable, Fanny est capable.
Exact. Donc, quand on jouait à deux, si jamais les deux meurent, là, vous recommencez au point de sauvegarde le plus proche, mais comme je vous dis, il y en a énormément. Il ne se passe pas grand-chose, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis à l'écran. C'est vraiment contemplatif, là, presque. Le rythme, c'est long avant qu'il y ait plusieurs ennemis. Éventuellement, ça devient un peu plus difficile. Il y a des bouts de platforming... Je peux pas dire challengeant, mais quand même un petit peu plus difficile, surtout si, comme moi, vous voulez avoir 100% de toutes les choses à ramasser. Les choses.
Parce que Martine, elle ramasse toutes les choses, hein, jeux vidéo.
Toutes les choses. Donc, c'est sûr que si vous voulez pas ramasser tout, ça se fait très facilement. Si vous voulez tout ramasser, comme moi, je vais vous donner le même conseil que mon ami Dominique m'a donné. Fais le jeu complet.
Papa cassette.
Exactement. Mm-hmm. Fais le jeu complet parce qu'à la toute fin, tu vas avoir le droit de pouvoir recommencer à n'importe quel point de sauvegarde. Fait que ça t'évite de marcher parce que, comme je dis, tu marches. La carte est longue, là, tu sais. Mais bon, je vous le recommande quand même parce que j'ai eu du plaisir. Puis, juste pour, comme je dis, si c'est un jeu en famille, c'est parfait. Puis, ça vous fait regarder des petits comiques. Puis, l'histoire était drôle. Puis, c'était très cute.
Tu te rappelles le nom déjà?
Disney Illusion Island.
Merci.
Puis c'est vraiment disponible là, tout partout. Là. C'est un jeu qui est sorti cette année. Là.
C'est un Disney. Là.
Exact. Vraiment pas difficile à trouver. Là. Disponible chez vos grands détaillants comme RetroMTL.com.
Un parmi tant d'autres. On dit ça non.
Mais il nous en reste. Hein. On en recommande tout le temps.
OK, c'est bon.
Et là, évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Super Mario Wonder qui vient tout juste de sortir le 20 octobre dernier. Je sais, tout le monde en a entendu parler, tout le monde connaît ce jeu-là, mais j'ai pas eu le choix de faire ma chronique là-dessus, parce que à tous les tableaux, je suis comme, « Hey, François, je t'étudie à quel point c'est écœurant. Hey, je t'étudie à quel point c'est hot. » Tu sais, j'ai l'impression qu'on a écouté ma dernière chronique, parce que je sais pas si tu te rappelles, Fanny, mais j'avais parlé de Super Mario Land 2 au Game Boy.
Je m'en souviens très bien, Martin.
Et je disais que je trouvais ça plate, que ça faisait des années que Nintendo, avec un Mario 2D, il y avait pas autant de créativité que dans ce jeu-là ou que tous les niveaux étaient différents.
Mm-hmm.
Et là, je pense qu'ils m'ont entendu.
Ils ont écouté l'étiquette.
Ils ont écouté
Nintendo
ma chronique.
Nintendo a écouté
c'est
sa
sûr.
Chronique.
Parce que là, on avait vu dans le trailer du jeu, avant sa sortie, que Mario, une de ses nouvelles habiletés, c'était de devenir un éléphant. Et là, il niaise pas avec le puck. Premier tableau, t'es un éléphant.
Yes.
Ils te font pas attendre des dizaines de tableaux, là. Non, non, non. Fait que, puis aussi, dans chacun des niveaux, il y a une fleur à trouver. Et cette fleur-là, une fois que tu la prends, le niveau change complètement. On pourrait dire que c'est une plante hallucinogène parce que le niveau devient complètement éclaté avec des mécaniques de jeu qu'on n'a jamais vues dans un Mario. Puis, je ne sais pas combien ça a dû coûter développer ce jeu-là parce que pour qu'il répète jamais... Là, j'ai pas fini le jeu. Là. Je suis rendue au cinquième monde. On en voit 6 sur la carte, là, mais absolument...
Il y en a toujours des cachés.
Ouais. Mais c'est toujours des nouveaux ennemis, des nouveaux paysages, des nouvelles habiletés. C'est incroyable. Je ne peux pas croire le temps de développement que ça a dû prendre pour faire ce jeu-là.
Mon chum a commencé à jouer, puis je l'ai vu un petit peu quand même. Puis tous les personnages ont des animations différentes.
Oui.
Même les petits Goombas là, qui ne sont pas si importants que ça. Ils ont toutes des petites animations, des réactions face aux objets, là.
Oui, puis ils ont rajouté aussi énormément de niveaux musicaux. Puis là, des fois, quand tu prends la fleur magique, là, justement, toutes les plantes piranhas se mettent à chanter et puis à danser, puis là, comme c'est la fête. Il y a même nouveautés, dont les badges. Donc, t'es accumules au fil des niveaux bonus. Donc, avant de rentrer dans un tableau, tu peux prendre, par exemple, un badge qui fait que tu peux coller une fois sur le mur, un badge qui fait que tu sautes plus haut. Puis, justement, il y a un badge qui te donne des scènes si tu sautes au rythme de la musique.
quand même.
Fait que ça aussi, tu le choisis avant de rentrer, fait que c'est bien le fun. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. Pour les gens qui ont un petit peu plus de difficultés en platforming, tous les Yoshi de couleur et Chip-in ne peuvent pas mourir.
Oh!
Mais il ne se transforme pas. Tu es en Yoshi, tu ne seras pas un éléphant ou un Yoshi de feu. Tu restes Yoshi.
Mm-hmm.
Exactement. Encore une fois, comme dans Super Mario Land 2, tu fais le tableau que ça te tente. Tu te promènes sur la carte, puis tu es comme « Ah, ben lui ou lui
okay. ».
Puis avec des étoiles, il t'indique le niveau de difficulté du
bien,
tableau.
Ça.
Exact. Puis pour te rendre, disons, au boss du monde, il faut que tu ailles cumuler tant... de graines, parce que oui, il y a beaucoup de jokes de graines
oui,
à faire
mon
jeu.
Chum n'arrête pas.
Il faut que tu aies cumulé, disons, 12 graines, mais il y en a peut-être 35. Fait que t'es pas obligé de tout faire non plus. S'il y a des tableaux que tu trouves trop difficiles ou qui te tentent pas. Mais tu sais, je vois pas comment ça pourrait pas te tenter parce qu'ils sont tous vraiment, mais vraiment incroyables. Donc, ça, c'est quand même relativement facile comme Mario, mais encore une fois, pour les gens comme moi qui aiment avoir un peu plus piquant et collectionné, faut trouver 3 grosses scènes mauves, faut atteindre le haut du drapeau. Il y a des fois des sorties secrètes, donc toutes les des classiques de Mario. Mais sincèrement, là, je vous dis, j'ai essayé de repenser, puis à part Super Mario Land 2, puis un peu Super Mario World, ça faisait tellement d'années que dans les 2D de Mario, on était vraiment sur le modèle de la Wii, toujours comme similaire, mais là, c'était une grande découverte. Je capote ma vie, je ne pensais pas autant adorer un Mario que ça. C'est un 10 sur 10.
Oh!
Wow!
Je pense que c'est la première fois que tu donnes un 10 sur 10 au Geekette ou même une note.
Mais c'est pour ça que je vais pas vraiment parler de Super Mario Wonder. Tout le monde en a parlé. Tout le monde sait c'est quoi.
Mais si, il est bon. Il est bon. Puis tout le monde est... Les auditeurs ou auditrices, là, ils aiment ça entendre aussi parler. Ils vont pas écouter juste une chronique. Ils vont en écouter d'autres aussi, là. Donc, ils vont écouter ta chronique.
Oui, puis même moi, là, la première, je me suis dit, « Ah, je vais-tu vraiment acheter ça à sa sortie? J'ai un grand backlog de jeux. Je suis pas vraiment pressée. » Puis là, je regardais les gens jouer, puis je fais non. Là, il est sorti le vendredi. Lundi, je suis allée me l'acheter, puis j'ai fait, « OK, là, je comprends pourquoi tout le monde y joue. » C'est magnifique.
C'est bon.
Fait que si vous avez des enfants qui, même, tu sais, qui commencent du gaming, c'est pas brisé. C'est, n'importe qui peut jouer à ça, là, peu importe votre âge.
Je vais prendre note, moi, pour ma fille.
Oui. Fait que boudez pas votre plaisir, Colin.
Ouais. C'est vraiment beau, là. Puis oui, il y a beaucoup de jokes de graines, là, qu'on fait entre adultes, là. Parce que c'est ça, il y a des graines dans Mario.
Ben oui, puis à la fin du monde, il faut que tu trouves la graine royale. Puis t'as des, puis t'as des graines prodiges. Puis ouais, fait que disons qu'au Québec, c'est une drôle de...
Ouais, lost in translation, comme on dit un peu, là.
Oui, puis c'est aussi la première fois que Mario, je pense à ça, n'est pas dans le Magic Kingdom. Hein. On est complètement ailleurs, on est dans un nouveau monde.
Ah.
Et cette fois-ci, faut pas sauver Peach. Non, Peach est un personnage jouable.
Ah, cool.
Nous aidons le prince Florian.
On aime ça.
Introduction d'un nouveau monde et de nouveaux personnages. Mm-hmm. Donc, il y a des gens aussi qui se sont plaints parce qu'il y a des petites fleurs un peu partout qui parlent, ils donnent des petits trucs.
Ah, ils peuvent trouver ça fatigant.
Mais ça s'enlève.
Ah, il y a une option.
Il y a une option pour les enlever, voilà. Mais moi, ça. Ça
c'est
me plaît.
Sympathique. C'est comme tes petits amis que tu leur parles.
Oui, puis des fois, ils disent aurais-tu oublié quelque chose? J'ai-tu oublié quelque chose? Puis là, ben, tu peux chercher un peu plus les secrets.
Mais là, Martine, entre les deux, là, y en a-tu un que tu as aimé plus?
Ben, c'est sûr que c'est Super Mario Wonder.
Ouais, c'est ça. Je savais que ça.
Ben oui, c'est sûr, c'est ça. Mais Disney Illusion Island, c'est vraiment le graphisme de ce jeu-là qui m'a beaucoup accroché.
Donc, les visuels, si tu aimes les visuels, les beaux visuels.
Exact.
Je comprends.
Mais c'est puis quelqu'un qui adore Mickey, je veux dire.
Oui.
Puis
grosse licence quand même. Là.
C'est plus, il serait plus facile. Tu sais, si vous avez vraiment un enfant plus jeune ou qui n'a jamais joué, Disney Illusion Island est plus facile quand même que Mario. Mais tu sais, Mario en éléphant, qui peut pas aimer ça?
C'est quand même un peu drôle, tu sais.
Exact.
Ben merci, Martine, pour cette suggestion-là.
Oui, super.
Bonne suggestion, oui.
Très, très, très grand public aujourd'hui.
Juste à temps pour les fêtes, là. On est début novembre.
Mais pour les moments cosy.
C'est ça, plus cosy. Alors, ça conclut l'épisode 108 de La vie secrète des geekettes. Hey, merci tout le monde d'avoir été avec moi pour cet épisode-là. Alors, les geekettes, où est-ce qu'on nous trouve? On a un site web, geekettes.ca. On a une page Facebook qu'on publie des fois. On a un Instagram qu'on publie des fois. Et puis, c'est pas mal ça pour les geekettes.
Un Gmail aussi pour vous envoyer.
Je n'ai pas mentionné dans les nouvelles, mais viedegeekettes@gmail.com. Si vous avez des nouvelles, je laissais Martine tousser.
Oui, je vais s'étouffer que ma bave. Un jour, je vais en mourir.
On va tous mourir de ça un jour. Mais non, c'est ça. Si vous avez des nouvelles, nous partagez viedegeekettes@gmail.com. Aussi, écoutez
Patreon.
Hein, si vous voulez, tout de suite après l'épisode, on va enregistrer un geekette secrète qui va se retrouver sur le Patreon. C'est un vidéo et de l'audio de nous autres. Steph, tu vas être avec nous autres d'ailleurs.
Ben oui.
Donc, si vous voulez écouter ça, abonnez-vous à notre Patreon à partir de 2$ ou 5$ par mois. C'est pas compliqué. C'est pas mal ça.
À ce prix-là, vous voyez nos petites faces.
Ben oui. Vous pouvez toutes les écouter. Je pense qu'il y en a comme proche 50, là. C'est fou, là. Vous avez beaucoup, beaucoup de backlog, là. Donc, c'est ça. Steph, merci d'avoir été notre invité pour cet épisode.
Toujours plaisir.
Super, ben oui. Ancien, nouvel invité.
On le réinvitera à l'épisode 215.
Peut-être avant son ben autre oui, invité. Ben
oui. N'importe quoi.
Parfait, alors ça termine l'épisode des Geekettes. On dit bye-bye à tout le monde.
Bye! Bye. Bye.